Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Hélène Destombes.
Le pape François, engagé dans la poursuite du dialogue œcuménique et interreligieux, en recevant ce mercredi au Vatican les représentants de diverses églises chrétiennes et des autres religions, le 265e successeur de Pierre a souhaité que les religions promeuvent la soif d'absolu dans le monde. Retour sur ce discours dès le début de ce magazine. Parmi les nombreuses personnalités religieuses présentes salle Clémentine ce mercredi, le patriarche œcuménique de Constantinople, Bartholomé Ier, et David Rosen, directeur de l'American Jewish Committee, vous l'entendrez dans quelques instants. Entretien également dans cette édition avec Bruno Joubert, ambassadeur de France près le Saint-Siège. Bienvenue dans ce magazine. Au lendemain de la messe de début du ministère pétrinien de l'évêque de Rome, la journée du pape François ce mercredi était consacrée à une première série d'audiences, à la fois privées et publiques. Le pape a en effet reçu dans la salle Clémentine au Vatican les représentants de diverses églises chrétiennes et des autres religions, en particulier juifs et musulmans. À tous, le pape François a demandé de promouvoir dans le monde la soif d'absolu. Jean-Baptiste Cocagne.
Inizio il mio ministero apostolico durante quest'anno che il mio venerato predecessore.
En cette année de la foi voulue par Benoît XVI, 50 ans après l'ouverture du Concile Vatican II, le pape François a témoigné de sa ferme volonté de poursuivre le dialogue œcuménique, rappelant l'importance significative du Concile dans ce cheminement vers l'unité entre chrétiens.
Sì, cari fratelli, sorelle in Cristo, sentiamoci tutti intimamente uniti alla preghiera del nostro Salvatore.
Sentons-nous intimement unis à la prière de notre Sauveur lors de la dernière scène. Demandons au Père miséricordieux de vivre pleinement la foi afin de témoigner librement, avec joie et courage. Ce sera, souligne le pape, notre meilleure contribution à la cause de l'unité, un service d'espérance pour un monde encore marqué par les divisions, les contrastes et les rivalités.
Et ora mi rivolgo a voi, distinti rappresentanti del popolo ebraico.
Citant encore une fois le Concile Vatican II, le pape François, s'adressant aux représentants juifs, a souligné le lien spirituel très spécial qui unit juifs et chrétiens, et il a dit croire en la poursuite d'un dialogue fraternel souhaité par le Concile et qui a porté des fruits, spécialement durant les dernières décennies. Dans ce discours, le pape accorde également une attention toute particulière aux autres traditions religieuses, et en particulier aux musulmans. « J'apprécie beaucoup votre présence », a-t-il déclaré, « et j'y vois un signe tangible de la volonté d'avancer dans l'estime réciproque et la coopération pour le bien commun de l'humanité. »
La Chiesa cattolica è consapevole dell'importanza che ha la promozione dell'amicizia.
L'Église catholique est consciente de l'importance de l'amitié et du respect entre les hommes et les femmes des différentes traditions religieuses, une phrase que le pape a prononcée à deux reprises, signe de l'attention accordée au dialogue interreligieux.
Dobbiamo tenere viva nel mondo la sete dell'assoluto.
Comme il l'a déjà fait ce mardi lors de la messe d'installation, le pape François a rappelé la responsabilité de chacun envers notre monde, envers la création que l'on doit aimer et protéger. Et il a souhaité, c'est l'un des points importants de ce discours, que les religions promeuvent la soif d'absolu dans le monde en empêchant que l'homme ne soit réduit qu'à une seule dimension, ce qu'il produit et consomme. C'est, a lancé le pape, l'un des pièges les plus dangereux pour notre époque. Le pape insiste enfin sur les risques qu'encourent les sociétés qui éliminent Dieu, exhortant chacun à s'ouvrir à la transcendance. Ses dernières paroles s'adressent d'ailleurs aux hommes qui ne se reconnaissent en aucune tradition religieuse. Nous devons être proches de ces hommes et de ces femmes, a précisé le pape, qui sont malgré tout à la recherche de la vérité, de la bonté et de la beauté de Dieu.
Si sentono tuttavia in ricerca della verità, della bontà e della bellezza.
« Je remercie du fond du cœur mon frère Andrea. C'est avec ces mots que le pape avait débuté son discours, faisant référence aux paroles que venait de prononcer le patriarche œcuménique de Constantinople. Bartholomée Ier, dans son allocution, avait tout d'abord salué le pape émérite, Benoît XVI, un homme doux qui s'est distingué par sa connaissance théologique et sa charité. S'adressant au pape François, « La tâche et les responsabilités qui vous attendent devant Dieu et les hommes sont énormes », a-t-il déclaré. Le patriarche est ensuite allé à l'essentiel. L'unité des églises chrétiennes est la première et la plus importante de nos préoccupations, a-t-il affirmé. C'est un des présupposés fondamentaux pour que notre témoignage chrétien soit crédible aux yeux de ceux qui sont proches et de ceux qui sont plus lointains. Le pape François avait reçu en audience privée dans la matinée Bartholomée Ier, le métropolite Hilarion, président du département des relations ecclésiastiques extérieures du patriarcat de Moscou, mais aussi la présidente brésilienne Dilma Rousseff, qui l'accueillera dans son pays en juillet prochain lors des journées mondiales de la jeunesse de Rio de Janeiro. Le pape s'est également entretenu en privé ce mercredi avec Claudio Eppelmann, qui dirige le congrès juif d'Amérique latine, avec lequel il entretient de bonnes relations depuis plusieurs années. Une importante délégation juive était présente mardi place Saint-Pierre lors de la messe d'inauguration du pontificat du pape François. Une délégation dont fait partie le rabbin David Rosen, directeur de l'American Jewish Committee et chargé du dialogue interreligieux au sein du Grand Rabbinat d'Israël, présent également Sal Clémentine ce mercredi. Touché par les paroles du pape et par le salut spécial à l'adresse de la délégation juive, David Rosen espère beaucoup de ce pontificat. On l'écoute.
Je pense que c'était très touchant et complètement cohérent avec l'homme que nous avons appris à connaître depuis quelques jours. Je pense que cela augure quelque chose de très stimulant pour l'avenir de l'Église.
En tant que juif, qu'attendez-vous du pape François ?
Il y a eu aujourd'hui une reconnaissance spéciale de la communauté juive. Après tout, c'était une messe, un office chrétien, mais en accueillant les invités, il a spécifiquement salué les délégués de la communauté juive et puis les autres religions. C'était donc l'unique communauté, en plus des autres communautés chrétiennes, qu'il a nommément citée. C'est déjà un geste symbolique de fraternité. Et vous savez qu'il n'y a jamais eu de pape qui ait eu autant de contact avec une communauté juive que le pape François. Évidemment, Jean-Paul II avait entretenu des amitiés durant son enfance, mais une fois devenu prêtre, puis évêque, il n'y avait plus de communauté juive vivante avec qui dialoguer. Le pape François a passé de nombreuses années en ayant d'étroites relations avec la communauté juive de Buenos Aires, participant à des festivals juifs, des commémorations. Et puis l'année dernière, il a accueilli à la cathédrale la commémoration de la Nuit de Cristal, qui marque le début des persécutions ouvertes contre les Juifs. Et il a aussi publié un livre avec un rabbin. Il a donc un lien et une amitié unique avec la communauté juive. On ne peut être que confiant, car non seulement il marchera dans les traces de Benoît XVI et Jean-Paul II, mais il va encore plus approfondir les relations entre Juifs et catholiques.
À l'heure actuelle, quel est le principal défi pour le dialogue entre les Juifs et les catholiques?
Le défi réel n'est plus théologique désormais, car nous avons maintenant Benoît XVI et Jean-Paul II qui ont suivi tous les deux Nostra Aetate et qui ont évoqué une amitié spéciale, unique et positive avec les Juifs et le judaïsme. Le défi actuel est celui de l'éducation. Car dans certains endroits, en particulier en Amérique latine, il n'y a pas de communauté juive. Contrairement à la grande communauté juive de Buenos Aires, il y a des endroits en Amérique latine où vous ne trouverez aucun juif, et aussi dans certains endroits en Afrique et même en Asie. Donc la question aujourd'hui, c'est comment on traduit cette transformation de la relation entre les deux religions pour la transposer dans les programmes scolaires, dans les écoles et les séminaires à travers le monde. J'espère que sous le pape François, nous serons capables de transformer ce succès et d'en faire quelque chose de plus grand et de plus profond.
Des propos recueillis par Manuela Affigi. Mardi, peu après 17h, le pape François avait téléphoné à son prédécesseur, le pape émérite Benoît XVI. Il lui a présenté ses vœux à l'occasion de la fête de Saint-Joseph et lui a manifesté une nouvelle fois sa gratitude en son nom et au nom de l'Église pour son ministère, son service. Selon le pape François, Benoît XVI a suivi très attentivement les événements de ces derniers jours et en particulier la messe célébrée mardi place Saint-Pierre pour l'inauguration de ce nouveau pontificat du 265e successeur de Pierre. Samedi prochain vers midi, le pape François se rendra en hélicoptère à Castel Gandolfo, la résidence d'été des papes près de Rome, où Benoît XVI réside depuis sa renonciation le 28 février. Un déjeuner est prévu avec son prédécesseur. Il lui avait déjà téléphoné le soir même de son élection. À plusieurs reprises, le pape François a rendu hommage à Benoît XVI. Pas moins de 132 délégations étrangères, dont 31 chefs d'État, étaient présentes mardi lors de la messe d'inauguration du pontificat du pape François. La France était représentée par le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, ainsi que par le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius. Le pape François, au cours de son homélie, a appelé les fidèles à ne pas avoir peur de la bonté et de la tendresse, à se mettre au service des plus pauvres et des plus humbles, enjoignant les responsables de la planète à être gardiens de la création, gardiens de l'autre. Quel regard porte la France sur le pape François? Comment interpréter ses paroles lancées à l'adresse des officiels? Quelles sont enfin les nouvelles perspectives de travail qui se dessinent entre le Saint-Siège et la France? Nous avons posé la question à Bruno Joubert, ambassadeur de France près le Saint-Siège.
Le monde entier était présent à la cérémonie d'hier. Il est clair donc pour nous que l'élection de François est une forme de reconnaissance des nouveaux équilibres dans le monde et dans l'Église qui s'ébauchent devant nous. C'est donc le témoignage de la volonté et de la capacité de l'Église à s'y adapter. Et c'est logique, au fond, puisque l'Église revendique depuis le début de sa si longue histoire sa catholicité, c'est-à-dire son universalité. Donc aujourd'hui, l'Église est vraiment dans la mondialisation, comme le sont les États réunis hier sur le parvis de Saint-Pierre, et naturellement la France, qui est une puissance mondiale et dont le rôle en particulier aux États-Unis est à cet égard significatif.
Alors, vous avez évoqué la messe d'inauguration du pontificat de pape François. Il a prononcé une homélie très forte. Il a parlé de charité, de pauvreté, de service, d'attention aux plus pauvres, aux plus souffrants, aux plus humbles. Il a notamment appelé les responsables, les décideurs de la planète, à être gardiens de la création et gardiens de l'autre. Qu'est-ce que ça vous a évoqué, ces paroles?
Je crois que ces préoccupations-là que vous venez de citer, ce sont celles que le gouvernement français, le peuple français partage. Comme l'a dit le Saint-Père, en ce domaine, il ne faut pas céder au pessimisme, et ça vaut aussi pour nos sociétés. Alors le président Hollande, en félicitant le Saint-Père par écrit, comme il l'a fait, a d'ailleurs souligné que la France et le Saint-Siège agissent en commun au service de la paix, de la justice, de la solidarité, de la dignité de l'homme. Et M. Fabius aussi, dans un entretien, avait eu l'occasion de souligner que les premiers gestes du pape ont suscité beaucoup d'espoir et que sa façon de dire que l'Église doit se tourner vers les pauvres est une façon très politique de se positionner. Et donc de ce point de vue, la France reconnaît une communauté de préoccupations, évidemment.
C'est un nouveau pontificat qui commence. Vous serez amené à rencontrer le pape François d'ici peu de jours. Est-ce que vous entrevoyez de nouvelles pistes de travail avec le Saint-Siège?
Évidemment, il faut rappeler que la France et le Saint-Siège sont unis par des relations forte, étroite et ancienne. Dois-je rappeler que la France, historiquement, est peut-être la première, puisque nos relations remontent au moins au 8e siècle. Monsieur Fabius, notre ministre, a indiqué il y a quelques jours encore la grande qualité des relations que la France entretenait avec le Saint-Siège, et notamment sous le pontificat de Benoît XVI. Alors, il est évident qu'aujourd'hui, comme on vient de le dire à propos de votre question précédente, nous partageons la volonté d'agir ensemble dans le souci des valeurs que sont le respect de la liberté, et la liberté religieuse bien sûr, la fraternité, celle qui mène vers les plus pauvres, et l'égalité qui est un besoin dans ce monde. Et ces valeurs de fraternité, de liberté, d'égalité, eh bien, ce sont celles-là même que notre République, la République française, met en avant. Et puis il y a l'action en faveur de la justice, de la solidarité, du partage, de la lutte contre les exclusions, toute notion que le Saint-Père a mise en avant et qui correspond pour le gouvernement français à un engagement en France même, mais aussi à l'étranger, puisque le gouvernement français s'installe depuis longtemps dans une action de développement et de coopération. Donc naturellement, nous trouvons là, avec le Saint-Siège, des pistes d'action communes. Et je fais le gage qu'avec le pape François, nous accentuerons ces possibilités de coopération pour la construction d'un monde plus juste, plus solidaire. Et comme l'a dit le pape lui-même dans son homélie hier, respectueux aussi de la création et notamment de l'environnement. Et je crois que sur ce point-là, il y a des pistes nouvelles telles que vous les évoquiez.
Bruno Joubert, ambassadeur de France près le Saint-Siège, présent place Saint-Pierre ce mardi, était interrogé par Manuela Affigi. L'élection du pape François, on l'a vu ces derniers jours, a suscité beaucoup d'enthousiasme, mais les attentes restent nombreuses. Le nouveau souverain pontife est attendu sur des dossiers aussi sensibles que la sécularisation massive et inexorable des sociétés, le dialogue avec les autres religions, les questions bioéthiques et morales. Monseigneur Gérald de la Croix, archevêque de Québec, de passage à Rome, évoque l'émotion et la grande espérance que suscite l'élection du pape François et les défis qui l'attendent.
Une surprise de Dieu, une grande joie, une réjouissance partagée non seulement par les évêques et les cardinaux, mais de ce que je vois par l'humanité entière. Vraiment, là, c'est une surprise. On ne s'attendait pas à cela. Alors, c'est le premier mot. Surprise et joie.
Surprise et joie. Le nom de François?
Ça, c'est un coup de cœur. Hein? Vraiment, là, il a touché les cordes sensibles des croyants et des croyantes. François est aimé partout dans le monde. Un choix extraordinaire parce que François a vécu à une époque très difficile de l'histoire de l'Église. Et il a su, avec son amour du Christ et de l'Évangile, son radicalisme évangélique, sa simplicité, son humilité, sa pauvreté, donner un souffle qui est encore là aujourd'hui, plus de 800 ans après, c'est pas rien. Alors imaginez un pape qui prend ce nom-là. Ça nous dit beaucoup d'espérance pour l'avenir de l'Église.
François, c'est également aussi, comme vous l'avez dit, celui à qui Jésus a dit « Va et répare mon Église dans une période difficile ». Qu'est-ce que ça vous inspire à ce niveau-là?
Le pape François voit très bien, comme plusieurs d'entre nous, je crois, qu'il y a de grandes réformes à faire. Hein? On a besoin de renouveau, je dirais même de conversion. J'ai eu le bonheur de participer au synode sur la nouvelle évangélisation en octobre dernier. Et c'est un thème récurrent, conversion personnelle, pour que notre vie soit cohérente avec l'Évangile que nous proclamons et annonçons. Et ça, à l'intérieur de l'Église, c'est évident qu'il y a un appel, une insistance de la part du Seigneur actuellement pour que notre Église, pour que nous, membres de l'Église, pasteurs et fidèles, hein, c'est toute l'Église dans son ensemble, revenons à l'Évangile, revenons au dépôt de la foi. Il y a un appel, je pense, à faire de grandes rénovations, de restaurations au niveau de la curie romaine. On sent un appel, hein? On le sentait déjà avant le conclave. Il y a de la grogne, et il y a des tiraillements, il y a un besoin aussi là de dire peut-être que nous devons faire autrement aujourd'hui. Nous avons à revoir notre façon de fonctionner en Église, entre dicastères et les évêques du monde entier. Comment pouvons-nous mieux servir la mission de l'Église aujourd'hui? Alors, je pense que c'est des grosses questions. François, que le Seigneur lui donne le courage d'aller jusqu'au bout dans cette réforme.
Vous pensez à plus de collégialité, plus de collaboration effective entre les dicastères, plus de clarté, plus de transparence?
Oui, tout ça. Je pense que les fidèles et l'ensemble de l'humanité ont besoin de voir chez nous vraiment un témoignage de vie chrétienne transparent, lumineux, des gens qui vivent dans l'amour et la vérité comme le Seigneur nous y invite. Et je pense qu'on a vraiment du chemin à faire, moi le premier.
Des propos recueillis par Manuela Affigi. Le directeur général de la FAO, José Graziano da Silva, qui a assisté à la messe de début du ministère pétrinien de l'évêque de Rome, a indiqué que les Nations Unies comptaient sur le souverain pontife, ami des pauvres, pour soutenir la lutte contre la faim, la malnutrition et l'extrême pauvreté. Le soutien du Vatican et des autres religions est indispensable dans notre combat pour éliminer la faim, construire un avenir durable et améliorer la vie des plus vulnérables d'entre nous. Ces efforts, a-t-il souligné, n'ont pas seulement un sens politique et économique, il s'impose aussi du point de vue moral. Le pape François, a-t-il ajouté, m'a assuré que le Vatican continuerait à soutenir les pauvres et la lutte contre la faim. C'est la fin de ce magazine. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, merci de l'avoir suivi.